L'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Au nom de Jésus. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il l'a voulu parce que cela lui plaisait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret qu'il avait librement décidé par avance d'accomplir en Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais dès à la première lecture de ce texte, nous pouvons sentir à plein nez, si je peux utiliser cette expression, la notion de la prédestination. Dieu vous a choisi à l'avance. Ça revient à chaque fois. Et quand on parle de prédestination, nous avons tout de suite à l'esprit cette théologie phare de Calvin, qu'on attribue à Calvin, je dis bien qu'on attribue, mais il y a beaucoup de discussions là-dessus, sur la prédestination. Mais la notion de la prédestination n'est pas une théologie qui n'appartient qu'à Calvin. Elle a été déjà enseignée par des personnes bien avant lui, comme Luther aussi, comme Saint Bernard et Saint Augustin. Mais pourquoi la prédestination de Calvin avait fait tellement parler de lui par rapport aux autres? Parce que, historiquement parlant, il faut quand même le savoir, c'était à cause de la polémique créée par une personne qui n'était pas d'accord avec Calvin, qui s'appelle Bolsec, qui lui accusait de détruire la morale avec cette théologie, détruire la responsabilité de l'homme, et qu'à cause de cette notion de prédestination, les gens vont adopter la façon des Nicolaïtes, comme dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire celui qui se dit, puisque le salut est déjà dans mes mains, pourquoi encore prier, pourquoi suivre les paroles de Dieu, puisque j'étais prédestiné à être sauvé. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, je tiens à donner une petite explication ou une notion assez basique sur la prédestination pour que tout le monde puisse savoir ce qui en est. Alors j'ai repris d'abord la définition qui a été donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, une définition, on va dire, plus profane. La prédestination est une doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance destiné certaines créatures à la béatitude par le seul effet de sa grâce et sans considération de leurs œuvres, vouant les autres à la damnation. Voilà la définition profane. Mais étonnamment, cette définition est la compréhension populaire sur la théologie de Calvin, sur la prédestination. Mais est-ce que c'est vraiment cela la prédestination? Est-ce que c'est ce que Calvin voulait dire dans sa théologie? Honnêtement parlant, je ne le crois pas. Et je vous ne le cache pas, je suis de formation luthérienne, mais j'ai lu pas mal de livres sur la prédestination de Calvin et je trouve qu'il y avait eu une incompréhension, une fausse interprétation qui a été faite et qu'on a collé cela à Calvin. Et je vais vous expliquer à travers ce texte pourquoi. Si on tient compte de cette définition classique sur la prédestination, alors nous pouvons dire que Dieu serait un juge qui tranche et qui adopterait le favoritisme. Est-ce qu'il y a une préférence de Dieu sur les êtres humains? Et par la suite, accepterait-il qu'il aurait des pertes? S'il doit trancher, il accepte aussi qu'il aurait des pertes. Et toutes ces questions sont légitimes, je crois, et dignes d'être prises en considération. Mais notre erreur de compréhension sur la prédestination, c'est de mettre cela en lien avec le temps. C'est-à-dire qu'avant toute chose, Dieu avait déjà choisi certaines personnes pour le salut et d'autres pour la perdition éternelle. On a lié la prédestination avec la notion du temps. Et là, nous faisons erreur. C'est pour cela que je vous invite à replonger dans le texte. Malheureusement, nous n'avons pas la Bible dans nos mains, mais relevons toutes les phrases qui feraient allusion à la prédestination dans ce texte. Verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. N'oubliez pas le début. En lui, nous avons été choisis. Si on a enlevé cette partie-là, oui, la prédestination est liée avec le temps. Mais on a été choisi en Christ avant la fondation du monde. Le verset 5, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, par Jésus-Christ. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut en lui, vous êtes venu à la foi et vous avez été scellé de l'Esprit Saint qui avait été promis. Ainsi de suite. Donc la prédestination, chers frères et sœurs en Christ, doit toujours être relative en lien avec le Christ et non avec le temps. Il est question d'élection, je suis d'accord, mais une élection toujours en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ sont prédestinés à être sauvés, non pas à cause de leurs œuvres, mais parce qu'ils sont en Christ. Le Christ est leur garant devant le Père. Et il est un être préexisté. Donc celui qui croit en Jésus signifie que le Christ nous reconnaîtra lors du jour du jugement et que le Père nous a déjà vus en Jésus avant que le monde fût. Et ça, c'est le mystère du salut. Dieu nous a déjà justifiés à la croix avant que nous naissions. Un peu comme ce que Jésus avait dit à Nathanaël, rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Cependant, il y a un paradoxe que j'admets difficile à comprendre dans cette notion de prédestination, car même si la grâce de Dieu est sans limite, c'est-à-dire qu'il dépasse le temps, ce n'est pas tout le monde qui va la recevoir. Ça, c'est un paradoxe. La grâce de Dieu est immense, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Qu'on le veuille ou non, il y aura toujours une perte, il y aura toujours une déperdition qui fait partie de la réalité du salut. Donc, nous pouvons voir que nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu et qu'il n'y a plus rien à faire. Non. Ou bien on croit que c'est lui qui fait tout et nous ne faisons plus rien. Imaginez un peu quelqu'un qui a le pouvoir absolu au-dessus du temps. Il entre dans le temps. Il a le pouvoir sur le temps. Qu'est-ce qu'il en ferait? Je suis sûr qu'il va manipuler le temps. Il va manipuler l'histoire pour son propre compte. Mais Dieu n'a pas fait cela. Et c'est ça qui dérange notre conscience humaine. Dieu, même s'il a tous les pouvoirs, Dieu parfois laisse le mal agir. Il peut le faire, mais pourquoi il ne le fait pas? Pour moi, cela fait partie de la grâce. Même le mal qui agit dans le monde. Parce que rappelez-vous de la parole de Jésus qui disait « Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Luc chapitre 12, verset 5. Donc non seulement il a le droit de vie et de mort, mais aussi il a le droit sur notre salut. Mais il ne nous oblige pas à être sauvés, même s'il peut le faire. Parfois, on se dit, « Seigneur, pourquoi tu ne changes pas aujourd'hui toute ma famille pour qu'ils croient en toi ? Tu peux le faire, mais pourquoi il ne le fait pas ?» Voilà notre Dieu. C'est ça la grâce, chers frères et sœurs. Il veut que tout le monde soit sauvé, certes, mais pas comme ça. Pas en manipulant les gens ou en les téléguidant. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal était présent au milieu du jardin. Parce que Dieu ne veut pas nous influencer. Il nous laisse le choix. Et c'est encore la grâce. C'est une grâce. Oui, il est le maître du temps. Il savait pertinemment le choix que l'homme allait faire, que l'homme va choisir le mauvais chemin. Mais Dieu ne s'est pas immiscé dans le choix de l'homme, même s'il avait le pouvoir de le faire. C'est ça le mystère de la grâce. Dieu peut s'immiscer dans l'histoire du monde, mais il reste présent dans l'histoire du monde. Alors la prédestination en question ici est centrée sur le Christ, c'est-à-dire que le Père a tout confié à son Fils, notre héritage. Et donc, ceux qui sont en Christ, ils peuvent être sûrs et certains que leur salut est assuré à l'avance. C'est ça la prédestination relative. Chaque croyant doit être sûr de son salut. Si on te pose la question, es-tu sûr que tu seras sauvé quand tu quitteras ce monde? Tu ne dois pas y hésiter. Tu ne dois pas dire, oui, mais ça dépendra de ce qui va se passer 10 ans plus tard. Notre héritage a été confié en Christ. Ceux qui sont en Christ sont prédestinés pour le salut. C'est le Christ qui l'a dit, mais pas moi. Et c'est grand, c'est immense, c'est vrai. Mais c'est comme ça, c'est ça la grâce. Et cela a une grande conséquence dans notre conception de l'éthique chrétienne à ce moment-là. Et je dis bien l'éthique, mais pas la morale, parce qu'il y a une différence. Dans l'éthique chrétienne, c'est la gratitude. Tu as reçu la grâce, alors tu es quelqu'un qui est à cette gratitude envers Dieu. On a toujours accuser que ceux qui croient en la prédestination sont ceux qui véhiculent qu'ils feront n'importe quoi. Non? Loin de là, la notion de la grâce ne se sépare jamais avec la notion de la gratitude. Nous sommes reconnaissants et nous manifestons notre gratitude envers le Seigneur parce que la grâce que nous avons reçue est immense. La grâce, elle est imméritée. Alors nous avons cette gratitude. Cette gratitude ne pourra jamais égaler la grandeur de ce que Dieu nous a donné. Jamais nous pourrons satisfaire Dieu en réponse de ce qu'il nous a donné, la vie éternelle. Et dans le texte, on parle beaucoup d'abondance, de richesse, c'est-à-dire, c'est comme un trésor intarissable que l'on peut puiser chaque jour et que l'on n'arriverait même pas à dépenser le dixième de cet amour de Dieu. Chaque jour, quand tu rentres dans ta chambre avant de te coucher, tu demandes pardon à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est immense, qui est renouvelable chaque jour, inépuisable. Et c'est ça qui te rend vraiment dans la gratitude. Tu dis, Seigneur, merci. Tu n'as rien à faire que de dire merci pour ce que tu as fait. Alors, celui qui se dit qu'il est sous la grâce de Dieu, c'est une personne qui est normalement dans un sentiment de gratitude. Cela se voit dans sa vie, comme l'apôtre Paul. Il n'y a aucun apôtre, je crois, qui a branlé le mot « la grâce de Dieu ». Mais lui, il est celui qui prêche farouchement cette grâce et aussi la sanctification. Celui qui a donné sa vie pour Dieu. Celui qui a fait des choses énormes tout en sachant que le salut lui appartient déjà. Voilà quelqu'un qui est dans la gratitude. C'est pas normal un enfant de Dieu qui a son nom écrit dans le livre de la vie et qui est passif. C'est pas normal. C'est quelqu'un qui n'a pas compris la grâce. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il a été gratifié. Paul, lui, il a compris. Tellement il a été inondé de la grâce de Dieu qu'il s'est mis en route, qu'il a tout fait, non pas pour dire merci à Jésus, mais c'est sa façon à lui d'exprimer sa gratitude. C'est ce qu'on nous reproche à nous les protestants. Nous sommes tellement passifs parce qu'on nous a dit on a été justifié par la grâce. Et c'est un peu vrai. On est un peu victime de notre théologie qui est bonne, mais dans l'éthique, on a un grand retard. Un protestant passif, un protestant qui ne s'implique pas dans la société, dans la vie de tous les jours, comme si on s'est dit, oui, parce que j'ai déjà le salut, à quoi bon de s'investir dans la vie? Ça, c'est notre problème principal. Et il faut rectifier cela. Et ça, c'est loin de ce que les réformateurs nous ont enseigné. Alors à nous aujourd'hui aussi de répondre à cette question que David avait posée dans le psaume 116, 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Tu dois te poser cette question. Comment rendrai-je au Seigneur tous les bienfaits qu'il a faits pour moi? Si cette question nous travaille tous les jours, tu sauras ce que tu dois faire.